mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour aux auditeurs, bonjour Catherine.
Bonjour Jean-Louis.
Je me propose aujourd'hui de parler cinéma. Il ne s'agit pas de quitter notre ami René Girard, mais de voir comment certains films peuvent nous aider à bien cerner sa théorie anthropologique.
Tu vas donc nous commenter un certain nombre de films ?
C'est ça, et je vais tâcher de le faire en suivant les idées clés de la vision de Girard. Au commencement est le mimétisme, hyper développé chez l'être humain, à tel point que même ses désirs sont imités jusqu'à notre identité profonde. Cela peut conduire à des rivalités extrêmes avec ceux dont nous prenons modèle. Ces rivalités risquent de contaminer toute la communauté. Face à cette crise, les sociétés archaïques réagissaient non par une approche analytique rationnelle, mais par le sacrifice d'un bouc émissaire. Celui-ci est alors investi d'un étrange statut, à la fois malfaisant, comme responsable présumé de la crise, et bienfaisant, puisque son immolation a ramené la paix. De cette ambivalence naît le sacré, rites, mythes et tabous. Ceux-ci fondent alors la culture. Mais les boucs émissaires sont le plus souvent innocents. Et il revient au christianisme de l'avoir révélé par la passion.
Quel programme !
Le premier film que j'aimerais mentionner est « Plein soleil » de René Clément, avec Alain Delon et Maurice René. Il est tiré d'un roman policier de Patricia Highsmith. Il montre jusqu'où peut aller le désir de s'approprier un modèle. Alain Delon est le secrétaire d'un playboy riche qui mène une vie désordonnée. Il se met à s'identifier à lui. Dans une scène célèbre du film, Alain Delon revêt les vêtements de son patron et devant un miroir, singe ses paroles, ses comportements et jusqu'au son de sa voix.
Il s'agit donc du mimétisme existentiel et de la rivalité qu'il entraîne.
C'est exactement ça. Je n'en dis pas plus pour ne pas révéler le développement de l'intrigue. Plein soleil est un grand film. Nous allons retrouver le mimétisme dans un film plus modeste. C'est une comédie satirique américaine, sortie en 2009, avec Demi Moore et Lorin Hutton, intitulée « La famille Jones ». Cette famille s'installe dans un nouveau quartier et elle devient la coqueluche de tous les voisins, qui ne songent plus alors qu'à l'imiter. L'intrigue révélera qu'il s'agit d'une opération commerciale sophistiquée. La leçon est simple, les champions du marketing savent exploiter sciemment nos ressorts mimétiques. Le metteur en scène, Derek Bort, est d'ailleurs un ancien maître de la vente.
Que peux-tu nous proposer pour illustrer le phénomène du bouc émissaire ?
Là, nous avons un film très impressionnant de Fritz Lang, avec Spencer Tracy, qui s'intitule « Fury ». Il date de 1936. Dans une petite ville du Middle West, une enfant a été enlevée. Tout le monde suspecte tout le monde. Arrive un étranger à la ville. Un malentendu incite le shérif à mener l'enquête à son propos. Mais sans attendre la moindre preuve, la population décide de sa culpabilité et incendie les locaux du shérif où l'étranger se trouvait en garde à vue. Or, il était innocent. Une scène saisissante montre les visages fascinés des habitants contemplant l'incendie. La paix est revenue, mais au prix du lynchage d'un innocent. La suite du film est tout aussi passionnante, avec les thèmes de la vengeance et de la rédemption.
Ce film montre donc comment le sacrifice d'un émissaire peut ramener la paix. Mais pour le phénomène de sacralisation du bouc émissaire ?
Il nous faut nous tourner vers un autre film américain, bien plus célèbre, un classique du western. « L'homme qui tua Liberty Valance » de John Ford avec John Wayne et James Stewart. Pendant la conquête de l'Ouest, un petit village est sous la coupe d'un pistolero sadique. Arrive un avocat, James Stewart, qui veut introduire l'ordre et la justice dans la ville. Mais il s'interdit de recourir à la force. Il se retrouve humilié et blessé, réduit à servir comme garçon de cuisine. Et pourtant, à la suite d'épisodes que je ne révèle pas dans l'intérêt des spectateurs, il parviendra à ses fins, sera élu député puis sénateur, grâce à quoi il fera construire des écoles, des hôpitaux, une digue pour protéger la ville, etc. C'est très exactement le schéma du paria qui déstabilise la ville, puisqu'il provoque le pistolero, et qui devient ensuite son bienfaiteur. Le meurtre fondateur est bel et bien présent.
Comme quoi, le mécanisme ne se produit pas que dans les sociétés archaïques.
En effet.
Thank you. Existe-t-il des films qui évoquent les temps anciens ou archaïques ?
Nous avons un monument du cinéma. C'est le film « Jules César » de Joseph Mankiewicz, avec James Mason et Marlon Brando. Si c'est un monument, c'est avant tout parce qu'il s'agit d'une adaptation très soignée et très réussie de l'une des plus grandes pièces de Shakespeare, qui porte le même nom. Tout y est de la théorie girardienne. Les rivaux de César qui veulent prendre sa place, la guerre civile qui déchire Rome, le meurtre de César en plein Capitole, l'Empire ensuite qui s'établit grâce à ce meurtre. César est ensuite élevé au rang de divinité. Cassius, le rival de César, exprimant sa jalousie à son égard, les mots de Brutus au moment du meurtre auraient pu sortir de la plume de Girard. Mais nous reviendrons à Shakespeare dans une autre émission. Pour les sociétés archaïques, il existe un film de Mel Gibson, datant de 2006, Apocalypto. L'action se déroule en Amérique du Sud, à l'époque précolombienne. Les Mayas font des razzias dans les tribus voisines pour capturer les futures victimes de leurs holocaustes. Nous suivons l'itinéraire de l'un de ces captifs. Mais lui refuse le sort auquel les autres se résignent. Il parvient à s'enfuir et la course-poursuite s'achève avec l'une des plus étonnantes surprises jamais vues au cinéma. Pour les Girardiens, le héros qui refuse son statut de victime expiatoire est un pas vers la révélation de l'innocence des boucs émissaires. Avec une telle attitude, la mécanique s'enraye.
C'est avec la révélation chrétienne qu'elle s'enraye véritablement ?
Bien sûr. C'est l'innocence absolue de Jésus qui révèle le mensonge de la culpabilité des boucs émissaires.
D'une certaine manière, tous les films reprenant les évangiles peuvent l'illustrer. La Passion selon saint Matthieu de Pasolini, le Jésus de Franco Zeffirelli, la Passion du Christ de Mel Gibson et bien d'autres.
Nous pouvons mentionner un film plus récent et qui présente une particularité par rapport à tous ces films. C'est La Résurrection du Christ avec Joseph Fiennes, sorti en 2016. La particularité est l'apparition d'un personnage nouveau et fictif, un centurion chargé d'enquêter sur la disparition du corps de Jésus. Le film raconte bien sûr la résurrection, mais le personnage du centurion est aussi un témoin du supplice et de la mort de Jésus. Au cours de son enquête, il va également comprendre que Jésus est innocent de ce dont il a été accusé, d'autant plus qu'il connaît, pour être chargé de ramener l'ordre romain, les factieux véritables qui créent les troubles et les insurrections. Nous voilà donc avec un témoin extérieur aux apôtres et qui révèle l'injustice de la condamnation de Jésus. À sa manière, ce film dévoile l'innocence du bouc émissaire.
Nous pouvons peut-être faire une petite récapitulation pour les auditeurs. Pour illustrer le mimétisme, tu nous as proposé deux films, Plein Soleil, avec Alain Delon, et La Famille Jones, avec Demi Moore.
Pour le phénomène du bouc émissaire, nous avons évoqué Fury de Fritz Lang, avec Spencer Tracy. Et pour le bouc émissaire sacralisé, nous ajoutons à notre compilation L'homme qui tua Liberty Valance, un western avec James Stewart. Et Jules César, de Joseph Mankiewicz, avec Marlon Brando.
Avec le film Apocalypto, nous assistons à une mécanique sacrificielle qui s'enraye, le héros refusant le statut de victime expiatoire.
Enfin, tous les films évoquant le Christ et la Passion sont des illustrations du troisième socle de la pensée de René Girard, à savoir que le mécanisme du bouc émissaire, s'il a permis de fonder la culture et la civilisation, n'en est pas moins un mensonge, car les victimes sacrificielles sont des innocents.
S'agit-il des seuls films véhiculant la pensée de René Girard ?
Pas du tout. Nous pourrions en évoquer des dizaines d'autres. Girard pensait que les œuvres littéraires nous touchaient et avaient donc de la valeur à proportion de ce qu'elles reflètent les lois du mimétisme, ou mieux encore, qu'elles les dévoilent. Dans le temps, on disait de tels romanciers qu'il était un fin connaisseur de la nature humaine, tant ses personnages nous paraissent vivants, alors que chez d'autres romanciers, les personnages apparaissent factices, incohérents ou peu crédibles. Le même critère vaut pour le cinéma. Nous pouvons observer les personnages de n'importe quel film et tâcher de percevoir si son comportement est en phase avec l'anthropologie girardienne.
C'est donc une invitation à regarder les films avec un œil nouveau.
C'en est une, mais il est l'heure de laisser nos auditeurs se précipiter vers leurs écrans. Au revoir Catherine.
Au revoir Jean-Louis, et merci aux auditeurs.